Nous sommes reconnaissants pour ce moment de louange, quand tous ensemble on peut te célébrer, cela te fait plaisir. Et c'est bien ainsi. Et maintenant, je te remercie maintenant pour Cédric, pour ce temps qu'il a consacré à se préparer pour nous faire du bien, pour nous fortifier, pour mieux te connaître. Que tu le bénisses et que ces paroles qui viennent de sa bouche viennent de toi, Seigneur. Amen.
Il faut que je fasse quelque chose. Voilà, c'est bon. Magnifique. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une joie d'être parmi vous ce matin. Une joie aussi de voir les différents liens qui se tissent entre nos deux églises. Et je vous transmets les salutations de l'église de la Colline à Crissier. Je me disais là, en venant sur mon scooter, en ce moment, on a plusieurs choses qui nous lie, hein. On vit un cours alpha ensemble, nos deux communautés. Il y a Claude, votre pasteur, qui donne un cours à la Colline en ce moment au sujet de l'Apocalypse. Et puis, moi, j'ai vécu mon stage il y a 12 ans ici avec le pasteur Marc Gallet. Puis c'est Marc Gallet qui prêche ce matin à la Colline pendant que je suis ici. Et puis, il y a certainement encore d'autres liens qu'on pourrait trouver, et c'est bon de savoir que je vois Ludger là, à qui j'ai ouvert la cuisine pour le cours alpha l'autre jour. C'est bon d'avoir des liens comme ça entre église, sœurs, et je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce matin. Vous êtes dans une série de prédications ici autour du livre de Philippe Yancey, « Ce Jésus que je ne connaissais pas ». Et puis on m'a demandé de m'inclure dans cette série de prédications et de me pencher sur le chapitre qui est consacré à la tentation de Jésus au désert. Avec la question suivante, avons-nous, comme Jésus, besoin de désert aujourd'hui? Ah bon? Jésus avait besoin de désert. Et nous aussi. Alors ma première réaction, quand j'ai lu cette question sur l'email que Claude m'a envoyé, ma première réaction ça a été « Oh non, j'ai pas du tout envie de désert. » Encore moins aujourd'hui. Et puis en me plongeant dans ce texte, je l'ai pris dans l'évangile de Matthieu, je me suis aperçu que le désert a été un moment crucial pour Jésus. Et qui peut l'être pour nous aussi, à condition que nous marchions à sa suite. Alors j'aimerais vous inviter, et puis nous inviter ce matin, à nous mettre à l'école de Christ, au désert. Alors si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir avec moi dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, Jésus vit un temps fort dans sa relation avec son Père. Il vient de se faire baptiser par Jean le Baptiste, et puis le ciel s'ouvre sur lui, peut-être vous connaissez ce texte, l'Esprit descend sous la forme d'une colombe, et une voix se fait entendre dans Matthieu 3, le verset 17, la fin du verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Dans d'autres versions, « en qui j'ai mis toute mon affection. » Celui qui fait toute ma joie. C'est l'affirmation par Dieu le Père, alors que l'Esprit descend sur lui, sur Jésus, l'affirmation de son identité de Fils de Dieu. Il est équipé, loin de l'Esprit-Saint, son ministère public, son ministère sur terre, commence. Et alors, comment ça continue? Matthieu 4, premier verset, « Alors, l'Esprit-Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. » Attends, Seigneur, là, je ne comprends pas. Pourquoi ce désert? Pourquoi l'épreuve? Pourquoi la tentation? Pourquoi le diable? Jésus est conduit au désert et on reste avec beaucoup de pourquoi. Jésus est revêtu, loin de l'Esprit, c'est maintenant l'Esprit Saint qui le conduit. Et le Saint-Esprit le conduit au désert pour y être tenté, éprouvé. Éprouvé et tenté en grec, c'est le même mot. Pirazo. C'est pas toujours bon ou utile de chercher à faire la distinction entre les deux mots, éprouvé ou tenté. Dans l'épreuve, la tentation n'est jamais loin. Et la tentation est bien une forme d'épreuve. Ça se passe de toutes sortes de façons dans nos vies, dès lors que nous sommes confrontés au mal, sous forme d'épreuve ou sous forme de tentation au péché ou d'attaque de Satan. La tentation, comme l'épreuve, sont des déserts. Des déserts dans lesquels notre foi, notre vie avec Dieu est mise au défi, testée, éprouvée. L'important n'est pas tellement de comprendre pourquoi et comment ça s'articule dans le détail, mais l'important c'est d'être trouvé fidèle, de suivre Jésus-Christ au jour de l'épreuve. Alors on va voir d'un peu plus près à quoi cette tentation, comment est-ce que cette mise à l'épreuve pour Jésus se met en place. Et nous allons lire les versets 2 à 4 de Matthieu 4. J'ai refermé ma Bible trop vite, moi. Voilà. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. On comprend. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, il est écrit, « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Pour cette première tentation, on poursuivra notre lecture tout à l'heure, pour cette première tentation, le diable s'attaque à Jésus dans sa faiblesse. Il a jeûné pendant 40 jours, il a faim. Pourquoi ne pas changer ses pierres en pain? Ça, c'est la tactique préférée de l'ennemi. Il s'attaque d'abord à nos points faibles. Si tu es le Fils de Dieu, le tentateur tente d'instiller le doute. Il met la parole de Dieu en doute. Ça vous rappelle quelque chose? Sa tactique n'a pas changé depuis le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Jésus vient d'entendre les paroles de son Père lors de son baptême, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et le tentateur vient dire, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Autrement dit, la parole de Dieu ne suffit pas. Tu as maintenant l'occasion de montrer que tu es bel et bien un enfant de Dieu. La parole de Dieu ne suffit pas. Il faut des signes, des miracles pour en donner la garantie. La parole de Dieu ne suffit pas. Son amour et son adoption manifestés lors de ton baptême ne sont pas suffisants. Si tu es vraiment son fils, sa fille, en qui le Père prend plaisir, alors ça doit se voir. Il doit y avoir des preuves tangibles. L'enjeu ici, c'est face à la tentation, face à l'épreuve. Allons-nous continuer de croire en la parole de Dieu ou va-t-il nous falloir des preuves supplémentaires? Quand nous faisons face à l'épreuve, la tentation peut être grande de chercher une assurance supplémentaire en dehors de la parole de Dieu, de sa parole d'amour. Nous avons tout à coup besoin de prouver, d'être vraiment sûr que nous sommes de véritables enfants, de véritables fils et filles de Dieu, pleinement remplis de l'Esprit. Nous pensons parfois, comment peux-tu prétendre être un enfant de Dieu alors que tu te débats avec tellement de problèmes et que tu n'es pas capable d'en être victorieux ? Et si ce n'est pas nous-mêmes, d'autres peuvent venir nous demander des preuves, pas directement, hein, mais subtilement, avec des phrases comme « c'est quand même pas possible d'être chrétien et d'avoir autant de problèmes ». Ou encore, si tu te repens vraiment, si tu places vraiment ta foi en Dieu, si tu saisis vraiment sa grâce et son amour, alors Dieu pourra intervenir. Jésus a été tenté, vraiment. Il avait faim, vraiment. Cette tentation n'est pas anodine. En plus, elle repose sur du vrai, comme toutes les tentations efficaces. N'est-il pas dit dans la Bible que Dieu ne donnera pas une pierre à ses enfants s'ils lui demandent du pain ? Dans Matthieu 7, verset 9. N'est-il pas vrai que Dieu intervient en faveur de ceux qui l'aiment et qui font appel à lui ? Jésus lui-même ne va-t-il pas multiplier du pain pour nourrir des foules ? N'avons-nous pas appris à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ?» L'homme n'a-t-il pas besoin de pain pour vivre ? Oui, mais pas seulement, répond Jésus. L'être humain a besoin de pain pour vivre, oui, mais il a aussi et avant tout besoin de la parole de Dieu. Dans nos épreuves, n'y aura-t-il pas de miracles ? N'y aura-t-il pas des signes visibles de l'action de Dieu ? Oui, alléluia. Mais s'il n'y en a pas, est-ce que ça remettra en doute la parole de Dieu ? Est-ce que ça remettra en doute son amour pour nous ? Si je n'ai pas de preuves matérielles, tangibles, est-ce que ma confiance en lui volera en éclats ? C'est la parole de Dieu qui nous fait vivre dans nos déserts. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. À l'école de Christ, au désert, nous apprenons à dépendre de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible, pour notre vie. Face aux épreuves, face à la tentation, que nous puissions continuer de faire confiance à Dieu, notre Père, et à sa parole. Son esprit repose sur ses enfants, sur ceux qui ont manifesté leur union avec Christ par le baptême. C'est de sa parole que nous serons nourris. Mais ce n'est pas terminé. Si Satan n'a pas pu atteindre Jésus dans sa faiblesse, il change de tactique. Il attaque sur ses points forts. On va lire les versets 5 à 7, Matthieu 4. Alors, le diable transporta Jésus dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide. » Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Le diable n'a pas réussi à tenter Jésus par des choses matérielles, du pain. Il va donc essayer de le tenter par des choses spirituelles. Pour cette deuxième tentation, vous remarquez que nous ne sommes plus dans le désert. Nous sommes dans la cité sainte, au sommet du temple. Si le tentateur ne parvient pas à nous rendre charnels, il va essayer de nous rendre hyper spirituels. La tentation ici, c'est de nous pousser dans une foi qui n'est plus confiance en Dieu, mais auto-persuasion, ou pire, tentative de manipuler Dieu. Et le diable cite la parole, cite le psaume 91. Ce psaume 91, c'était notre psaume de mariage. c'est vous dire si je l'aime. C'est un psaume absolument merveilleux et encourageant quand on fait face à l'épreuve. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole dans la journée. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Waouh ! Est-ce que tout ça, c'est pas vrai ? Oh oui, c'est vrai. Et pourtant, Jésus répond au diable en citant Deutéronome 6, le verset 16, il est aussi écrit « Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Dans d'autres versions, « Tu ne tenteras pas le Seigneur. » « Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. » Jésus répond par un autre texte de l'Écriture. Le diable tentait d'enfermer Jésus et Dieu lui-même dans une lecture excessivement littéraliste de la Bible. Et comme souvent, le diable nous tente en tordant le sens de la parole de Dieu. Et Jésus va répondre par une lecture centrée sur Dieu plutôt que sur lui-même. Le diable utilise parfois le texte biblique pour forcer une personne à placer une foi irréfléchie dans les promesses de Dieu. Jésus utilise le texte biblique pour nous apprendre à craindre et à respecter la sainteté de Dieu, à entrer dans une vraie confiance. Le diable susurre subtilement qu'il est impossible d'avoir une trop grande foi en Dieu. Il n'a pas tort. Mais, en réponse, Jésus affirme que de mettre Dieu à l'épreuve ne signifie pas avoir la foi, ne signifie pas avoir confiance en Dieu. Pour Jésus, le psaume 91 parle de l'amour protecteur de Dieu, pas d'une assurance tout risque que je peux tester. La foi ne signifie pas mettre Dieu à l'épreuve pour voir s'il va agir comme il l'a promis. La foi n'est pas un test, mais confiance en Dieu et confiance dans son amour. À l'école du Christ, au désert, nous apprenons que Dieu est Dieu. Si Dieu est dans notre vie, alors c'est nous qui le suivons et non l'inverse. Si Dieu est Dieu dans notre vie, alors notre foi n'est pas une forme d'auto-persuasion, ni une tentative de mettre Dieu sous pression. Si Dieu est Dieu dans ma vie, alors je peux faire face à l'épreuve, sans essayer de mettre Dieu dans ma poche afin qu'il serve mes besoins et mes intérêts. Dieu est Dieu. Dans l'épreuve, je peux lui faire pleinement confiance. Encore un échec pour le diable. Mais il revient à la charge. Et on va lire les versets 8 à 10 de Matthieu 4. Le diable transporta Jésus encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » On va s'arrêter là, dans notre lecture pour le moment. Le diable amène Jésus plus haut encore et lui fait voir tous les royaumes de la terre et lui dit, « Pourquoi te donner tant de peine ? Pourquoi te faudrait-il mourir pour le monde alors que tu peux le posséder maintenant ? » Jésus ne vient-il pas pour sauver le monde ? Jésus n'a-t-il pas pour projet d'étendre sa royauté sur la terre entière ? pourquoi ne pas accélérer un peu le processus ? Le diable lui propose un deal alléchant, un instant d'adoration et en échange, la domination sur tous les royaumes de la terre. Et une fois de plus, face à la tentation, Jésus met Dieu au centre. Face à l'épreuve qu'il attend, Jésus ne se tournera vers personne d'autre. Même face à la perspective de la croix, il ne se laissera tenter par aucune solution de facilité. Il ne se laissera tenter par rien qui pourrait le détourner de Dieu. L'adoration est pour Dieu seul. Dans nos épreuves, face à nos tentations, gardons nos yeux fixés sur Dieu et sur lui seul. Que rien ne vienne prendre sa place dans nos vies. Il peut y avoir des moments où l'épreuve est si forte que nous sommes tentés, que nous pouvons être tentés de nous détourner de Dieu, de lui retirer notre confiance pour la mettre ailleurs. Et Jésus ici nous montre la voie. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Lui seul est digne d'être le centre de notre vie, même face aux difficultés et à l'épreuve. Nos déserts sont des lieux d'affirmation de notre fidélité au Seigneur, envers et contre tout. Des moments de consolidation de notre foi dans le Dieu qui peut tout, même si je ne le vois pas à l'œuvre dans l'immédiat. Mais franchement, entre vous et moi, est-ce que nous ne souhaiterions pas parfois que Jésus ait accepté le deal ? Je ne sais pas vous, mais parfois, moi, j'aimerais un Seigneur plus éclatant, plus manifestement vainqueur. Imaginez, il aurait pu établir sa domination sur toute la terre, d'un coup. N'aurait-il pas pu régler le problème du mal, éviter les guerres, les souffrances, éliminer les maladies à ce moment-là? Parfois, j'aimerais un Dieu plus actif dans mon quotidien. J'aimerais des réponses rapides, extraordinaires à mes prières. J'aimerais voir des miracles, des guérisons par dizaines. J'aimerais un Dieu qu'on impose un peu plus. Un Dieu qui balaie les doutes de tout le monde, qui fait taire les contradicteurs par sa puissance manifestée. Je voudrais un Jésus qui montre à la société le droit chemin, qui impose une morale juste pour tous, pour le bien du monde, évidemment. Vous commencez à comprendre à quel point la tentation a dû être grande pour Jésus ? Tentation d'établir son règne tout de suite ? Jésus-Christ va bel et bien établir son règne sur toute la terre, mais il ne le fera pas avec les méthodes du diable. Il ne le fera pas selon les principes de Satan. Sa domination sera celle de l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de contrainte, pas d'oppression, pas d'obligation. Le règne du Christ est un règne qui respecte la liberté des êtres humains. Radicalement. Alors Jésus choisit la voie de la faiblesse, le chemin de la croix, afin de laisser les êtres humains libres de choisir par amour. Pas parce qu'il en impose, par amour. Et Philippe Yancey le dit dans son livre « Ce Jésus que je ne connaissais pas », « La puissance peut contraindre l'obéissance, mais seul l'amour peut engendrer une réponse d'amour. » Dans Jean 12, au verset 32, Jésus dit « Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et pour être sûr que nous avons bien compris de quelle élévation il s'agit, Jean ajoute au verset 33, par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. Pour Jésus, il n'y aura pas d'autre élévation que celle de la croix. pas d'autre domination que celle de l'amour. À l'école du Christ, au désert, j'apprends l'amour radical de Dieu pour moi et pour le monde. À l'école de Christ, au désert, j'apprends à aimer. Aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Et aimer mon prochain comme Jésus l'a aimé. Avons-nous besoin, comme Christ, de désert aujourd'hui? La réponse est oui. Oui, à condition que dans nos déserts, nous soyons à l'école de Christ. Et vous savez, nous pouvons répondre ce oui d'un cœur joyeux. À cause du dernier verset de ce passage, Matthieu 4, le verset 11. Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Jésus a vaincu. Satan a échoué. Jésus a résisté à la tentation et à sa suite, dans l'union avec lui, rempli du même esprit, nous pouvons être et nous sommes vainqueurs, nous aussi. Satan a échoué. Il a vaincu. Nous avons cette assurance, cette espérance affirmée, confirmée par la victoire de la croix et de la résurrection. Et si comme Christ, nous traversons le désert, si comme Christ, nous faisons face à l'épreuve, si comme Christ, nous tenons fermement en nous appuyant sur la parole de Dieu et sur son esprit, alors tout le reste nous sera donné en plus. Amen.